Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 23. Et les disciples, s'approchant, lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui, y répondant, leur dit, « C'est parce qu'à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux il n'est pas donné. Car à quiconque a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à quiconque n'a pas, cela même qu'il a sera ôté. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que voyant ils ne voient pas, et qu'entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, en entendant vous entendrez et vous ne comprendrez point, et en voyant vous verrez et vous n'apercevrez point, car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bienheureux sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Car en vérité, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, et ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Et celui qui a été semé sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, mais il n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Et les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses étouffent la parole, et il est sans fruit. Et celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui aussi porte du fruit, et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30.
Le Seigneur Jésus a donc parlé d'un quatrième terrain où la semence est tombée. Au verset 8, « D'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. » Ce sera peut-être l'occasion de parler un moment du fait de produire du fruit, pas seulement produire du fruit, mais beaucoup de fruits, et que ce fruit demeure, comme le Seigneur Jésus lui-même le dit au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean. Il ne faut pas oublier le but de cette parabole dans un sens pratique pour nous tous. Ce n'est pas seulement la pensée de recevoir la parole. À cet égard, le Seigneur Jésus s'adresse à tout homme, comme nous venons de le faire par moyen du cantique. Mais le Seigneur nous parle et demande que cette semence répandue produise du fruit. Ce sera alors l'occasion de parler un peu de ce sujet important de produire du fruit. D'où vient le fruit qui est produit? Comment ce fruit est-il produit? Et pour quelles raisons est-il produit? Voilà trois questions importantes en rapport avec le fruit. Ce qui est l'enseignement finalement, ou disons l'enseignement final d'une telle parabole, la parabole du semeur. Et voici que les disciples s'approchent du Seigneur et lui disent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui, répondant, leur dit « C'est parce qu'il vous est donné, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, il n'est pas donné. » Le Seigneur parle donc des mystères du royaume des cieux. C'est à vous qu'il est donné de connaître ces mystères. Et on l'a dit, c'est à ceux en fait qui vivent près du Seigneur, avec le Seigneur, qui prennent connaissance de sa parole, qui ont intérêt à connaître les pensées du Seigneur. C'est à eux que le Seigneur aime à se révéler encore davantage, selon qu'il est dit. Car à quiconque, verset 12, quiconque a, il sera donné et sera dans l'abondance, mais à quiconque n'a pas, cela même qui l'a sera ôté. Il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Le Seigneur aurait pu établir son règne, mais il n'a pas pu le faire à cause de l'incrédulité du peuple. Ce peuple l'a rejeté. Comment est-ce que le Seigneur pouvait établir son règne de gloire? Comment pouvait-il en fait établir ce royaume des cieux? Le règne à venir, le règne de 1000 ans, était cela, il est le royaume en puissance, le royaume des cieux en puissance. Pour le moment, le Seigneur étant absent, le Seigneur étant caché dans le ciel, eh bien, ce royaume n'est qu'un mystère. Et alors, en attendant que plus tard, ce royaume s'établisse en puissance, le Seigneur est là pour les instruire concernant ce royaume qui est un royaume en mystère. Il les enseigne et ces enseignements sont appelés les mystères du royaume des cieux. À vous, il est donné de connaître le mystère. À qui donc est-ce que le Seigneur révèle ses pensées? À ceux qui sont près de lui et qui recherchent ses pensées, qui désirent les connaître. C'est le verset 14 du psaume 25. Le secret de l'Éternel ou les intimes communications de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent, ceux qui ont affaire avec le Seigneur et ceux qui désirent connaître ses pensées. À eux, le Seigneur révèle ses pensées. Il est donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. À eux, il n'est pas donné. Ils rejetaient le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur aurait pu se révéler à eux en leur révélant ce que sont les mystères du royaume des cieux. Quiconque a, il sera donné. Ils avaient, les disciples, ils avaient reçu le Seigneur, et alors ils allaient entrer encore dans d'autres bénédictions, et même dans une plénitude de bénédictions. Ils avaient reçu le Seigneur, donc ils avaient un bien suprême, mais il leur serait donné encore d'autres bénédictions, une plénitude de bénédictions, comme il est dit ici, il sera dans l'abondance. Mais à quiconque n'a pas, cela même qui l'a lui sera ôté. Allusion au peuple d'Israël qui se vantait d'être le peuple de Dieu, d'avoir reçu sa loi très sainte. Il y en avait même ces conducteurs du peuple qui prétendaient la réaliser, la mettre en pratique. Eh bien voilà ce qu'ils avaient. Eh bien le jour allait venir où ce qu'ils avaient leur serait ôté, ils n'auraient absolument plus rien du tout, du moment qu'ils rejetaient le Seigneur Jésus, qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui. La parole de Dieu était répandue, la divine semence était répandue, cette parole dont l'objet est le Seigneur Jésus lui-même. On ne recevait pas le Seigneur, on se vantait de quelques privilèges des jours d'autrefois appartenant à l'économie de la loi, eh bien, ce qu'ils avaient allait être ôté. Tandis qu'alors, ceux qui avaient reçu le Seigneur allaient entrer de bénédiction en bénédiction, il leur serait donné même, il sera donné à celui qui a et il sera dans l'abondance. À la fin du livre de l'Ancien Testament, du livre du prophète Malachie, il est parlé de la bénédiction que le Seigneur fera pleuvoir sur son peuple à la fin des jours, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Voilà l'expression matérielle de l'abondance de bénédiction spirituelle. Ils allaient recevoir, ceux qui avaient reçu le Seigneur, d'autres bénédictions encore, des bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place, plénitude de bénédictions de telle sorte qu'il serait dans l'abondance. D'une manière générale, la parole nous parle nous présente des types, des symboles, des images, des récits qui illustrent des vérités profondes, des vérités divines, mais qui nécessitent de notre part une recherche, un effort personnel de compréhension. Et on peut dire, sans doute ceci s'applique à la parabole, le Seigneur dit, eh bien, que cela est réservé à ses disciples, il nous fait comprendre. Mais dans l'Ancien Testament, et nous disons cela volontiers pour la jeunesse, tous ces types que nous trouvons à travers des personnages de la Genèse et des livres suivants, les types du Lévitique, les sacrifices, tout cela fait partie de ces choses qui sont cachées au lecteur superficiel, qui nécessitent une recherche attentive, un travail, des comparaisons entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il nous est dit dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10 que, par exemple, ce qui est arrivé à Israël est arrivé comme type pour nous servir d'avertissement à nous que la fin des siècles ont atteint. Toute l'épître aux Hébreux également est la clé de la compréhension des sujets concernant les sacrifices, les sacrificateurs, tout le culte lévitique nous est, pour ainsi dire, traduit dans notre langage et interprété selon ce que sont les choses divines. Et alors, on comprend pourquoi Dieu a, pour ainsi dire, caché ces vérités si précieuses derrière des images pour susciter notre intérêt, pour nous amener à une recherche personnelle. Et on ne saurait trop encourager à lire ainsi l'Écriture, à lire l'Ancien Testament en y cherchant Christ, en y cherchant les vérités déployées dans l'Évangile. Le Seigneur, à travers cette parabole et ce qu'il dit au sujet d'Israël, nous invite vraiment à faire ainsi. Et ne soyons pas des lecteurs superficiels de la parole de Dieu. Le second terrain qui nous parle justement de cet esprit superficiel, rien ne pénètre vraiment profondément. Il y a quelque chose qui se passe en surface, et alors il y a une joie, une apparence de fruit, quelque chose qui pousse là, qui est visible, mais l'absence de racines profondes nous attire notre attention sur la nécessité d'aller profond pour que du fruit soit produit. Et cela est vrai aussi bien de l'inconverti que du croyant. Pour l'inconverti, c'est vraiment que la semence tombe là et il y a une sorte d'effet sentimental. Trop souvent, la parole garde cet effet extérieur, ce résultat superficiel, n'est-ce pas ? Alors il n'y a pas de racines profondes, si bien que on sait qu'une plante qui n'est pas enracinée, elle est facilement emportée. Et la parole agissant dans le cœur ne produit pas comme premier effet la joie. Quand elle agit vraiment, elle entre dans l'âme par la conscience. C'est ainsi que la parole opère d'abord par une conviction de péché ou pour amener un croyant à se tenir vraiment devant Dieu, mais la joie subite, extérieure, expansive, n'est pas une preuve du vrai travail de l'Esprit de Dieu dans le cœur. Alors on a là dans ce second terrain, et il semble qu'il est bien meilleur que
que le chemin parce que quelque chose pousse, mais il n'y aura pas davantage de fruits. Et dans notre vie chrétienne aussi, creusons en profondeur, cherchons profond dans l'Écriture. Prenons l'habitude de scruter la parole, pas nous contenter d'une lecture rapide et extérieure. On tombe toujours sur les mêmes versets, puis on les a peut-être soulignés dans sa Bible, mais prenons l'habitude de chercher profondément dans l'Écriture. C'est ainsi que la parole pourra produire du fruit dans nos vies. Marc a noté dans le verset 8, d'autres tombèrent sur une bonne terre. Il a fallu qu'au préalable, elle soit préparée, elle soit labourée pour qu'elle reçoive la semence et que la semence y trouve les éléments nutritifs et des conditions telles qu'elle peut germer, qu'elle peut croître et produire du fruit. Et nous avons dans ce verset 8, 100, 60 et 30. Et nous lisons dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, nous aurons l'inverse, 30, 60 et 100. Et dans l'Évangile selon Luc, 100, au centuple. D'où vient cette différence? On a dit tout à l'heure que l'Évangile selon Matthieu, dans en tout cas l'enseignement des paraboles du royaume des cieux, est dispensationnel. Eh bien, hélas, tout ce qui a été confié entre nos mains, qui que nous soyons, a toujours subi des altérations jusqu'à se trouver perdu. Et il n'en a pas été autrement dans l'histoire de l'Église que de beaux fruits au commencement. Un fruit magnifique, si on lit le livre des Actes, nous en avons entendu parler hier soir, les assemblées étaient en paix, prospéraient, il y avait de la bénédiction, il y avait de la joie, il y avait de la fraîcheur, parce qu'il y avait de la piété. Le fruit était porté de telle manière que les premiers croyants étaient appelés chrétiens. À Antioche, ils représentaient tellement Christ qu'on les appelait chrétiens ou diminutifs de Christ, si l'on peut employer ce terme. Ensuite, 60. Il n'a pas fallu longtemps pour que le fruit diminue de qualité, de quantité, et enfin 30. Vous voyez, c'est une décroissance. C'est l'histoire de la dispensation. Dans l'Évangile selon Marc, c'est l'Évangile du serviteur, et nous venons d'entendre la nécessité de porter de fruits, toujours plus de fruits, fruits abondants. Et sur le chemin du service, nous sommes appelés précisément à croître, serviteurs, tous nous le sommes, les femmes aussi bien que les hommes, les jeunes aussi bien que les personnes plus âgées, nous avons tous été sauvés pour servir et pour porter du fruit. Hélas, nous devons bien confesser les uns et les autres qu'hélas, notre fruit est bien souvent de piètre qualité, si voire même absent. Seigneur, lui pourtant, nous en avons entendu parler il y a un instant, ne méprise pas le fruit, si atténué soit-il pour nous. Nous penserions quelquefois que le fruit pour le Seigneur, c'est de faire de grandes choses. Mais, cher serviteur de Dieu, montrez que dans le Cantique des Cantiques, le Seigneur descend au jardin des noisettes pour y cueillir quelques fruits qui sont peut-être pour l'homme naturel un fruit qui est peut-être banal, qui est sans importance. Mais le Seigneur consent à venir dans ce jardin des noisettes où il y a quelques petits fruits pour les accueillir, s'ils sont produits par un cœur qu'il aime. En sorte que nous avons dans Marc 30, puis 60 et puis 100. Dans l'Évangile selon Luc, la semence porte du fruit au centuple. Pas de décroissance, pas de croissance, la semence porte du fruit au centuple. C'est sa puissance en elle-même. Elle a la puissance de produire la vie et de produire les fruits de cette vie qu'elle a apportée par son opération. Donc nous retenons l'Évangile selon Matthieu, un fruit qui va hélas en diminuant. L'Évangile selon Marc, pour chacun de nous, pour le service, un fruit qui devrait aller en croissant. Et Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dans l'Évangile selon Luc, c'est sa puissance à lui, la puissante et permanente parole de Dieu, capable de faire porter du fruit au centuple. Encore un mot, nous avons l'expression « comprendre plusieurs fois ». Je vais seulement faire une courte remarque. Alors, on pourrait trouver un contraste entre le verset 11, « C'est parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » On reviendra sur ces mystères du royaume des cieux. Dans cette enceinte du royaume des cieux, il y a plusieurs mystères. Le mystère du maintien du désordre actuel, contraire à la pensée de Dieu. Le mystère de l'Église qui vient s'introduire dans celui du royaume des cieux. Mais nous ne voulons pas entrer dans ces considérations pour le moment. Nous voulons seulement montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Parce qu'on pourrait déduire du verset 11, c'est donc qu'il y a des privilégiés à qui le Seigneur donne de comprendre et à d'autres il ne le donne pas. Mais telle n'est pas la pensée de l'Écriture. C'est parce qu'à vous, il est donné au verset 11 de connaître. Fin du verset 13, de peur qu'entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Au verset 15, encore à la fin du verset, et qu'ils ne comprennent. Au verset 19, celui qui entend la parole du royaume mais ne la comprend pas. Au verset 23, et celui qui entend et comprend la parole. Alors, comment se fait-il que l'un comprend, l'autre ne comprend pas? Eh bien, nous avons peut-être le petit secret dans le verset 15, et qu'ils ne comprennent du cœur. La réception de la parole de Dieu, la connaissance des pensées de Dieu, n'a de vrai sens que par le cœur. Nous ne connaissons et nous ne recevons que par le cœur. D'abord la conscience, comme notre frère Kekna vient de le dire, et ensuite c'est le cœur. Dans le premier livre des Rois, on a une affirmation dans le chapitre 3 qui ne laisse aucun doute sur le fait que ce n'est pas une question d'intelligence, pas une question de capacité intellectuelle pour comprendre les pensées de Dieu. C'est une question de cœur. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Sages et aux intelligents, l'homme n'a pas la clé pour connaître les pensées de Dieu. Il ne veut pas entrer dans la connaissance des pensées de Dieu par le seul moyen de son esprit. Ce n'est pas la clé pour ouvrir le trésor, si développé que soit son esprit. Mais tu les as cachés à ces sages et aux intelligents et révélés aux petits-enfants, à ceux qui prennent l'attitude, le caractère de petit enfant recevant toute simplicité la parole de Dieu. Dans le premier livre des Rois, le Seigneur vient parler à Salomon, chapitre 3, deux fois pendant la nuit. Chose remarquable, ce roi a été privilégié comme nul autre, il est Salomon, celui que Dieu a aimé, nous dit Néhémie. Salomon donc jouit d'un privilège tout particulier. Et il demandera ceci dans ce que constitue sa réponse, puisque Dieu lui demande ce que tu veux que je te donne. Et il dit au verset 9, pour faire court, on connaît bien ce récit, mais Salomon répond et dit, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute. Et vous voyez à la note, le traducteur a donné comme explication, ou un cœur intelligent qui comprenne. Salomon demande donc un cœur qui écoute. Et un cœur qui écoute ici, c'est un cœur intelligent qui comprend. C'était bien le cas des disciples. Ils avaient reçu la parole du Seigneur et ils étaient donc capables de la saisir, de la comprendre. Tandis que tous ces juifs, et parmi eux l'élite intellectuelle, les scribes, les pharisiens, ne pouvaient saisir aucunement quoi que ce soit de la parole de Dieu.
Ils comprennent parce qu'il y a la foi dans leur cœur. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, nous lisons « La foi est de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. » Et on peut recevoir, écouter la parole et l'écouter intellectuellement. Ou alors on peut la recevoir vraiment par la foi. C'est Dieu qui parle, j'écoute ce qu'il dit, je le reçois dans mon cœur et j'accepte ce qu'il dit. Et puis, quand on reçoit la parole et qu'on a la foi, alors on comprend. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Et souvent, peut-être pour les plus jeunes, les jeunes gens, les jeunes filles, on dit, voilà, à l'école, on dit, mais pour croire, il faut être un enfant, il faut être simple. Nous, on est intelligents. et on veut comprendre. Mais si vous voulez comprendre, comprendre les secrets de Dieu, ce n'est que par la foi que vous pourrez le comprendre. Ce n'est pas par votre intelligence. Alors, dans cet évangile, ce qui caractérise le bon terrain, c'est le fait de comprendre du cœur. Le Seigneur ici cite cette parole d'Ésaïe au verset 14 et 15. Et il y a comme un virage qui se fait vis-à-vis du peuple d'Israël. Jusqu'à maintenant, il avait annoncé la parole, ils n'ont pas reçu cette parole. Maintenant, il va parler par des paraboles. On l'a vu tout à l'heure dans la première réunion. Et des paraboles, c'est au fond quelque chose qui rend plus difficile la compréhension des choses. Ça va être plus difficile si votre cœur n'est pas touché. Et puis c'est aussi quelque chose pour rendre plus facile pour ceux qui sont dans la crainte de Dieu et qui écoutent les communications de Dieu. Alors d'un côté, c'est plus difficile pour l'incrédule, et de notre côté, c'est plus compréhensible pour celui qui croit et dont le cœur est tourné vers le Seigneur. Et cette citation d'Ésaïe, au verset 14 et 15, nous la retrouvons d'autres fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, à la fin du ministère du Seigneur. Et il est dit, au chapitre 12 de Jean, au verset 37, « Et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent pas en lui, afin que la parole d'Ésaïe, le prophète qu'il prononça, fût accomplie. Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce qu'Ésaïe dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne reçoivent pas des yeux, et qu'ils n'entendent pas du cœur et qu'ils ne soient convertis et que je ne les guérisse. » Ils n'entendent pas du cœur. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Fin du ministère du Seigneur dans l'évangile selon Jean. La même parole qui est du prophète Ésaïe. À la fin du livre des Actes, acte 28, l'apôtre Paul est à Rome et les Juifs sont venus. Et au verset 23, il leur exposait la vérité en rendant témoignage du royaume de Dieu depuis le matin jusqu'au soir, cherchant à les persuader des choses concernant Jésus, et par la loi de Moïse et par les prophètes. Et les uns furent persuadés par les choses qu'ils disaient, les autres ne croyaient pas. Et n'étant pas d'accord entre eux, ils se retirèrent après que Paul leur eut dit une seule parole. L'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète, disant « Va vers ce peuple ». Et il leur cite au verset 26 et 27 cette citation d'Ésaïe que le Seigneur Jésus dit ici à ses disciples dans notre chapitre. Et au verset 28, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations et eux écouteront ». Et nous trouvons là le même virage que nous avons dans notre chapitre, le Seigneur qui va vers les nations, qui le semeur qui sort dans le monde pour semer la parole. Ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu recevoir. Ça, c'est ce que les Juifs ont fait. Et maintenant, ils ne pourront plus croire, ils ne pourront plus recevoir. On est frappé, par exemple, de l'aveuglement des chefs du peuple. Quand on voit à la fin de l'évangile selon Matthieu, les seuls qui se souviennent que le Seigneur a parlé de sa résurrection, ce sont les chefs du peuple. Et ils vont faire mettre une garde devant le tombeau. Et ils sauront d'une façon certaine par le témoignage des gardiens qui étaient là, ils sauront qu'il s'est passé quelque chose, que ce n'est pas les disciples qui sont venus chercher le corps du Seigneur. Ils sauront en fait que quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Mais même là, ils ne croiront pas. Alors, nous avons tous le privilège ici d'avoir, dès notre plus jeune âge, pour la plupart d'entre nous, et en tout cas aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'écouter souvent la parole de Dieu. On a vu tout à l'heure les différents terrains. On a surtout parlé du chemin, on a parlé des rocailles. Et nous pouvons prendre l'habitude d'entendre la parole de Dieu. Nous pouvons la considérer peut-être que comme quelque chose pour notre intellect. Ou alors nous pouvons avoir un cœur sensible de tous les soucis, de toutes les tromperies des richesses et ailleurs la convoitise à l'égard des autres choses. Dans le premier terrain, celui qui a enlevé la parole, c'est l'ennemi, c'est le diable. Alors on est là, on écoute, et puis on écoute d'une oreille distraite, et on sort de la salle et on a oublié ce qui était dit. Ou il y a autre chose qui va nous occuper, et puis voilà. Quel était le sujet de la réunion cet après-midi ? De quoi a-t-on parlé ? On en parle le soir. Ah, puis, on a eu une bonne réunion, mais je ne sais plus quel est le sujet, je ne sais plus de quoi on a parlé. Peut-être que le diable est passé et a emporté cette parole. Ou alors, on était à la réunion cet après-midi, puis voilà, on a entendu des choses qui nous ont un peu remué dans notre cœur. Et puis, on se dit, ah oui, vraiment, il faut que ça change. À partir de demain, c'est sûr, je vais passer plus de temps à lire la parole, à prier. Vraiment, il faut que ça change dans ma vie. Parce que ça va pas. Alors, le lendemain, eh bien, on se lève, on commence à mettre le réveil plus tôt, et puis on va commencer, et puis voilà que on va arriver peut-être au travail, à l'école, et puis ça va devenir un peu plus difficile. Et puis, la parole qu'on a lue va nous contraindre peut-être à avoir une autre attitude. On avait l'habitude d'avoir une attitude avec nos amis, nos camarades, et puis on peut pas continuer, et puis on va continuer à faire comme autrefois, parce qu'on n'avait pas été travaillé dans son cœur, parce qu'on n'avait pas été vraiment dans la présence de Dieu, parce qu'on ne s'était pas vraiment tourné vers lui. Puis voilà, on aura aussi écouté la parole. Peut-être que dans les réunions que l'on va suivre ces jours-ci, si le Seigneur le permet, on écoute et puis on retourne à son travail. Ah, il y a des soucis. Ah, il y a des problèmes. Et puis, demain, il y a quelque chose de difficile à faire et on pense à cela. Et on oublie que le Seigneur nous a dit de nous décharger sur lui de tout notre souci. Il suffisait de lui en parler, de lui dire, voilà, j'ai tel et tel souci, tel problème, Seigneur, et de lui laisser ce problème. Il suffisait de se rappeler ce qui était dit dans l'Épître aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et à ce moment-là, nous aurions connu cette paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Il suffisait de cela pour que les soucis n'étouffent pas la parole. Ou alors, il y a la tromperie des richesses. On désire plus que ce que l'on a et puis ceci accapare notre cœur. Et on oublie que ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître à Timothée, que ceux qui veulent devenir riches, ceux qui désirent cela, ceux qui sont attirés par cela, eh bien, ils auront vraiment beaucoup de problèmes. Ou alors, il y a les convoitises à l'égard des autres choses. Cette convoitise qui est là, tout ce qui nous est proposé dans ce monde, et combien nous sommes sollicités à tous les jours. Peut-être que des jeunes trouvent que c'est vraiment beau ce qui nous est proposé. Et pourtant, ce qui nous est proposé, si nous nous laissons prendre par cela, c'est ce qui va nous éloigner du Seigneur. Alors, il nous faut un cœur honnête et bon. Il faut qu'il y ait ce cœur qui a été préparé par le Seigneur. Dans le premier terrain, c'est le diable qui a enlevé la parole. Dans le deuxième terrain, c'est notre chair qui était là, trop faible et qui n'a pas résisté. Dans le troisième terrain, c'est le monde qui a tout détruit. Et dans le dernier terrain, c'est le travail du Seigneur qui va tout faire. Et si, par exemple, dans l'évangile de Marc, il nous est dit que cette parole grandit, notre frère M. Finet nous en a parlé tout à l'heure, le fruit grandit dans les cœurs, on peut aussi se rappeler que dans l'évangile de Marc, le sujet, c'est le parfait serviteur. Et le travail du Seigneur dans notre cœur, Et le travail du Seigneur va être toujours un travail pour produire plus de fruits. Et nous nous souvenons ce que nous avons au début de l'épître aux Philippiens dans le chapitre 1er. Philippiens 1, verset 6. Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Son propos, c'est cela, achever son œuvre, cette œuvre commencée dans nos cœurs. Et puis, au verset 10, pour que vous discerniez les choses excellentes, afin que vous soyez purs et que vous ne bronchiez pas jusqu'au jour de Christ, étant remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Un fruit qui remplit le cœur. Et encore, je vais m'asseoir, on peut noter une chose. Quand il est question du fruit, dans notre passage, dans Luc et dans Matthieu, il n'est pas question de porter des fruits, mais de porter du fruit. Dans l'évangile selon Jean, quand le Seigneur dit de porter beaucoup de fruits, c'est toujours au singulier. Alors j'essaye d'imaginer un peu ce que ça veut dire. Non pas des quantités de fruits, mais un fruit qui devient de plus en plus grand, de plus en plus beau, parce que c'est quelque chose qui ressemblera au Seigneur. Christ formé dans nos cœurs. Un fruit qui demeure. Un fruit beau qui lui ressemble. Une pierre précieuse, quelque chose de précieux pour le cœur de Dieu. Quelque chose qui est à la gloire et à la louange de Dieu. Et alors, ce fruit, je me souviens quand, parfois, quand j'étais enfant, j'allais dire quand j'étais jeune, je me souviens avoir entendu quelque chose. Porter du fruit, c'est amener des âmes au Seigneur. Bon, c'est sûr que si on est à l'occasion de parler du Seigneur à quelqu'un et d'amener une âme au Seigneur, c'est une joie, mais c'est le Seigneur qui a fait le travail. Nous avons peut-être été un poteau indicateur, mais c'est tout. Et un poteau indicateur qui indique la direction pour aller à Paris ne fait rien pour que nous arrivions à Paris. Et c'est le Seigneur qui fait le travail dans le cœur. Et alors quand on dit, voilà, il faut porter des fruits et que vous ameniez beaucoup d'âmes au Seigneur, on peut se dire, mais moi, voilà, les années ont passé, puis qu'est-ce qui s'est passé? Et ce n'est pas cela, porter du fruit. Porter du fruit, c'est tout ce qui est produit dans mon cœur par la parole de Dieu, pour apprendre à mieux connaître le Seigneur, pour apprendre à mieux l'aimer, pour apprendre à mieux le suivre, pour apprendre à le connaître vraiment, et ainsi, en le connaissant, pour lui ressembler, pour qu'il y ait ce fruit, pour que nous soyons remplis de ce fruit de la justice qui est par Jésus-Christ. Dans la mesure où je le connais, dans la mesure où je suis près de lui, alors il y a ce fruit dans mon cœur. Et ce fruit est à la gloire et à la louange de Dieu.
Je reviens un tout petit peu en arrière, mais sans rompre le cours des pensées exprimées maintenant en rapport avec ce solennel passage cité donc en trois livres du Nouveau Testament, le passage d'Ésaïe 6, dont on a lu aussi quelque chose en Jean 12 et en Acte 28. C'est ce qu'on a appelé des jugements moraux permis et envoyés par Dieu. En entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez point, et en voyant, vous verrez et vous n'apercevrez pas, car le cœur de ce peuple s'est épaissi. C'est ce qu'on a appelé un jugement moral de la part de Dieu à l'égard du peuple juif. Il est remarquable de penser que un jugement moral est prononcé par Dieu à l'égard du monde païen, à l'égard du monde juif et à l'égard du monde christianisé. À l'égard du peuple juif, eh bien, nous avons notre passage et les deux autres citations déjà rappelées. Quant au monde païen, remarquons qu'est-il dit en Romains 1. Romains 1, qui nous décrit donc les infamies commises par les païens. Eh bien, vers la fin du chapitre, pas au début du chapitre, vers la fin du chapitre, il est dit « Dieu les livra ». Et c'est répété « Dieu les livra ». Et c'est dit une troisième fois « Dieu les livra à un esprit infâme ». Dieu lui-même qui intervient dans ce mal horrible accompli par les enfants des hommes, Dieu, à un moment donné, les livre, il les livra à un esprit infâme, la pensée d'un jugement moral envoyé par Dieu. Et alors, quant au monde christianisé, nous avons le passage de 2 Thessaloniciens 2, une énergie d'erreur sera envoyée pour qu'alors, à ce moment-là, on croit au mensonge. Véritablement, il n'y aura plus possibilité de croire en la vérité de Dieu. Il nous faut retenir ces trois passages en rapport avec trois sphères très distinctes et qui montrent la solennité de ce que Dieu peut permettre dans l'exercice de ses jugements avant les jugements proprement dits, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, là, il y a ces jugements d'ordre moral. On a parlé secondement du fait d'entendre et du fait de comprendre. Une petite parenthèse à cet égard, n'est-il pas remarquable de voir dans l'évangile selon Marc qu'à 7 reprises, il est dit que le Seigneur enseignait. Il est le serviteur. Il est le serviteur prophète, mais comme nos anciens frères nous l'ont enseigné et l'ont écrit, le serviteur, oui, mais le serviteur prophète. Dans l'évangile selon Marc, nous n'avons pas simplement un serviteur, nous avons certainement le serviteur parfait, mais nous avons également le serviteur prophète. Et comme tel, il a enseigné. Et cette fois, il nous a dit « Le Seigneur Jésus enseignait ». Nous ne disons pas les 7 passages, bien entendu, nous ne voulons pas prendre du temps, mais la première fois, au chapitre 1er, il nous a dit que le Seigneur enseignait dans la synagogue, au chapitre 1er. Au chapitre 2e, quand il est au bord de la mer, la foule vient à lui, il les enseignait. Et alors, au chapitre 4e, nous avons la parabole même du semeur, qui est présentée comme un enseignement. Verset 2 du chapitre 4, déjà cité cet après-midi, « Il leur enseignait beaucoup de choses par les paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, voici un semeur sorti pour semer. » Il y a d'autres passages, il y en a 7 en tout. Le 7e, le dernier, se trouve au chapitre 12e, où il est dit ceci au verset 35, « Comme il enseignait dans le temple, Jésus répondit et dit, et au verset 38, il leur disait, dans son enseignement, gardez-vous les scribes. » Il y a donc ces passages où le Seigneur Jésus est présenté, pas seulement dans ce 2e évangile, comme étant le parfait serviteur, mais comme étant le serviteur prophète. Et comme prophète, le prophète par excellence, notre Seigneur a enseigné. Il a enseigné, il enseigne encore. Notre frère tout à l'heure nous a exhorté à lire la parole, pas d'une façon habituelle. Certainement, chers amis, c'est une excellente chose de lire une portion de la parole chaque jour. Et nous n'avons peut-être pas, matériellement parlant, toujours le temps nécessaire pour étudier cette portion lue. Lire une portion de la parole est une chose excellente, mais combien nous avons besoin d'être exhortés à sonder la parole de Dieu, à rechercher la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'on fera des progrès dans la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas par une simple lecture fugitive de chaque jour l'utilité d'une telle lecture, mais ce n'est pas seulement une telle lecture qui va nous permettre de faire des progrès dans la connaissance du Seigneur. Il nous faut nous appliquer à lire cette parole, à la sonder, comme le Seigneur Jésus a pu le dire une fois au début de son ministère, sondez les Écritures, vous estimez avoir par elle la vie éternelle. Donc le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous parle, et si nous prêtons une oreille attentive à de tels enseignements, eh bien nous ferons véritablement de réels progrès dans la connaissance des pensées de Dieu. La vie est brève, chers amis, la vie est brève, il n'y en a pas tant ces jours au cours d'une existence. Il est bon de mettre à profit le temps que Dieu nous accorde, surtout quand on est jeune, dans ces années de 16 à 25 ans, mais ces années sont d'un prix incalculable, chers amis. Combien de frères arrivant à 60 ans, 70 ans, disent « Ah, si j'avais mis à profit de telles années, ces années où on lit, où l'on retient tout ce que l'on lit, on fait des progrès rapidement. » Ah, chers amis, ne méprisons pas de telles années, chers jeunes gens, chers jeunes filles, profitons de telles années que le Seigneur nous accorde. Le temps passe vite, il vaut la peine vraiment de mettre à profit ce temps qui passe si vite pour l'étude de la parole de Dieu. Alors le Seigneur de dire à la suite de cette citation de Ésaïe 6, « Mais bienheureux sont vos yeux ». Voilà une approbation du Seigneur. Bienheureux sont vos yeux, car ils voient. Ils voient pas seulement physiquement, c'est pas seulement l'organe de la vision, mais véritablement une vision spirituelle était accordée aux disciples. Vos oreilles, elles entendent. En vérité, je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs justes ont désiré de voir les choses que vous voyez, ils ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ils ne les ont pas entendues. Ce désir chez les prophètes et chez ces hommes justes de l'Ancien Testament, l'apôtre Pierre en parle dans sa première épître. Quand il dit ceci, dans la première épître, il dit ceci, il parle des prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée. Ils se sont informés, ils se sont enquis avec soin, ils ont recherché quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiqué, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Vous pensez pas, chers amis, que cette information, cette enquête, cette recherche était motivée précisément par ce désir de connaître les choses merveilleuses que les disciples, l'apôtre Pierre en particulier, avaient eu l'occasion de connaître. Ils les avaient vus dans la personne de Christ, ils les avaient entendus par la parole que le Seigneur Jésus énonçait, et alors les prophètes de l'Ancien Testament avaient ce désir déjà, ils auraient voulu connaître de telles choses, ils auraient voulu certainement les connaître, d'où ces mots « s'informer »,« s'enquérir », »,« rechercher », cela montrait quand même le désir des prophètes, des jours d'autrefois, de connaître ce que les disciples ont eu le bonheur de connaître, d'où alors le mot « bienheureux sont vos yeux, car ils voient, vos oreilles, car elles entendent ».
À propos du verbe « comprendre », sur lequel on a attiré notre attention, dans notre passage, nous aimons lire encore une expression des Proverbes au chapitre 28 et au milieu du verset 5, Proverbes 28, verset 5, « Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout ». Nous avons là une clé pour la compréhension de la parole. Et nous dirions volontiers simplificatrice. Et pour cela, si nous prenons le domaine de la création, voyons les esprits des hommes, aujourd'hui plus que jamais, toutes les élucubrations à propos de l'évolution, toutes sortes de doctrines. Pourquoi ? Parce qu'on n'introduit pas Dieu. Mais la foi, comme il nous est dit d'ailleurs dans Hébreux 11, par la foi, nous comprenons. Ce verbe comprendre, Alors, la foi, mais le fait de rechercher Dieu et de faire intervenir Dieu, simplifie tout. La création n'a pour nous qu'un seul agent, qu'une seule raison, c'est l'intervention du Créateur. Mais quand on voit les efforts inouïs que font les savants, leurs recherches pour essayer d'appuyer leur doctrine, on se dit, pauvres gens, et avec toute leur intelligence, tout leur raisonnement, et ils ne comprennent pas. Mais la foi comprend. Et la foi, elle recherche Dieu. Et il en est ainsi dans les divers domaines. C'est la foi qui s'appuie sur les déclarations de l'Écriture, et on comprend, comme on l'a vu tout à l'heure, du cœur, et on fait intervenir Dieu dans toutes nos recherches. Et c'est là la manière de tout comprendre. Et alors, pour dire encore quelque chose de ce terrain redoutable qui est celui des épines, il nous menace bien tous, n'est-ce pas? Parce que il y a cet envahissement des choses de la terre qui étouffe. Mais nous trouvons l'expression employée de deux manières. Une fois dans Marc, à propos donc de ce troisième terrain, il nous est dit au chapitre 4, la tromperie des richesses, les soucis du siècle, n'est-ce pas, et la tromperie des richesses, et les convoitises à l'égard des autres choses, c'est-à-dire au fond tout ce qui est dans le monde, puisque nous voyons que les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, voilà ces convoitises qui sont les choses du monde. Alors il nous a dit, entrant, étouffe la parole et laisse en fruit. Il y a là une pénétration. Entrant, ce mot est significatif parce qu'il nous montre que nous sommes accessibles et que nous pouvons nous laisser pénétrer par de telles choses. Dans Luc au chapitre 8, toujours dans la même parabole, au verset 14. Et ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole et s'en étant allés, sont étouffés par les soucis et par les richesses et par les voluptés de la vie et ils ne portent pas de fruits à maturité. Ils entendent la parole, ils s'en vont, mais ils sont étouffés eux-mêmes. C'est là ce dans quoi ils... Le contexte dans lequel il se trouve, on nous a parlé tout à l'heure, on reprend la vie quotidienne avec son train-train, avec tout ce qui va occuper notre esprit et notre cœur, et puis voilà, la parole est complètement étouffée. Ou bien alors, comme dans Marc, ce sont les convoitises elles-mêmes qui pénètrent notre cœur, qui est si perméable à ces convoitises et le résultat elle-même étouffe la parole et elle est sans fruit.
De l'avertissement du prophète Ésaïe, nous aimerions encore ajouter un mot. Le prophète se présente donc pour être envoyé, et c'est un message bien solennel et bien douloureux qu'il a prononcé. Va, dis à ce peuple ce que nous venons d'entendre, ce qui est dans Matthieu 13. C'est un avertissement, une menace qui remplit le cœur du prophète d'un réel chagrin. Il ne peut pas en être autrement. Il aime son peuple et entend l'Éternel lui dire, comme seul mandat qu'il lui confie, d'aller prononcer un tel jugement. On sent, on comprend comment le cœur de cet homme de Dieu, jeune encore, mais plein d'intérêt pour les choses de Dieu, plein d'amour et d'affection pour son peuple, et qui n'oublie pas que Dieu a fait des promesses, on comprend, chers amis, c'est une petite digression, mais nous pensons qu'elle se justifie, quand il a entendu cela, de peur qu'il ne se convertisse, qu'il ne soit guéri, et je dis, Seigneur, jusque à quand? Parce que Ésaïe a bien compris que le jugement de Dieu n'est pas la fin de ses voies. Jusque à quand, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, eh bien, jusqu'à ce que les villes soient dévastées, tout ce que nous avons dans les versets. Mais, vous voyez, précisément, il y a un mais consolant pour le prophète. Mais il y aura encore, là, un dixième. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains, nous pensons que c'est exactement la réalisation de ce que Dieu dit, il menace, sans doute, et en réponse à la question angoissée et pleine d'affection du prophète pour son peuple, et qui ne peut pas manquer d'éveiller dans le cœur de Dieu, qui ne peut pas manquer de toucher les fibres les plus profondes du cœur de Dieu, il y a quand même une promesse laissée, mais il y aura quand même là un dixième. Et Paul dira dans l'Épître aux Romains, « Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ?»« Qu'ainsi n'advienne, dit-il. » Qu'ainsi n'advienne, Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Et dans le chapitre 11 de cet épître aux Romains, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, c'est qu'un endurcissement partiel a été la part d'Israël, mais jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, mais ensuite, Israël sera sauvé. Jusque à quand, Seigneur? Eh bien, il y aura le triomphe de la grâce de Dieu. Et qui va répondre à la question du prophète jusque à quand? L'Éternel répond déjà dans le chapitre 6. C'est le Seigneur qui répond. Matthieu 23. Jusqu'à ce que vous disiez, jusque à quand, Seigneur? En sera-t-il ainsi? De la mise de côté de ce peuple, de ses misères sans nom, de tout ce qu'il a souffert à travers les siècles depuis sa déportation. Histoire effroyable. Jusque à quand, Seigneur? Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Faut aussi noter encore ce mot que Paul écrit l'Épître aux Romains avant de se trouver à Rome en captivité. Sans doute, il est allé à Rome 2 années après avoir écrit l'Épître aux Romains. Et n'est-ce pas remarquable que, à la fin du chapitre 28, comme on a dit tout à l'heure, ils doivent revenir sur cette question douloureuse et leur dire, écoutez, j'ai encore une seule parole, c'est la dernière. J'ai encore une seule parole. 750 ans après le prophète Ésaïe, c'est le Seigneur Jésus qui a présenté, Jean 12, cet avertissement, mais qui n'a pas encore complètement sorti ses effets. Il y aura encore une mise à l'épreuve, celle du Saint-Esprit, qui va descendre sur la terre, mais ayant rejeté le témoignage du Saint-Esprit, 30 ans plus tard, après la parole du Seigneur en Jean 12, il y aura encore 30 ans de patience avant que Paul dise, pour vous, le peuple tel, n'introduisons pas la question du résidu, s'adresse seulement à ce peuple incrédule dans Acte 28, mais pour vous, j'ai encore une seule parole. Et c'est celle d'Ésaïe, et elle va clore définitivement toute possibilité de rétablissement de ce peuple dans ses privilèges, jusqu'à ce qu'ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous avons par exemple en Genèse 22 le sacrifice du Seigneur. Genèse 23, la mise de côté d'Israël. Sarah meurt. Chapitre 24, l'Église qui est formée sur la terre. Mais au chapitre 25, chose qui est quelquefois oubliée, mais Dieu a donné un détail intéressant, puisque ce sont des chapitres qui ont un sens typique. Abraham prend une nouvelle épouse, et il y aura à nouveau des noces célébrées entre le Seigneur et Israël sur la terre. Le Cantique des Cantiques en donne une illustration des plus belles. Ce sera le triomphe de la grâce.
Verset 18 jusqu'au verset 23, et le Seigneur Jésus donne lui-même l'interprétation de la parabole du semeur. Nos frères ont déjà parlé de ces divers terrains. Nous aimerions simplement ajouter cette pensée et insister sur cette pensée
que, en fait, la parabole du semeur nous est donnée pour nous parler non seulement de la semence répandue qui est la parole de Dieu, mais pourquoi est-ce que cette semence est répandue? C'est pour qu'elle porte du fruit. Notre frère a cité tout à l'heure le passage remarquable de Philippiens 1. À la suite d'un tel passage, nous aimerions en citer également deux ou trois en rapport avec le fruit produit. Dans Philippiens 1, il nous est donc parlé du fait d'être rempli du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. D'où vient donc ce fruit de la justice? Il est par Jésus-Christ. Nous avons donc là l'origine, la source du fruit produit. Philippiens, un autre passage, nous montre la même pensée. C'est le Seigneur qui dit en Jean 15, « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et beaucoup de fruit, et que votre fruit demeure. » Le fruit qui est produit par le Seigneur lui-même. Alors, dans l'Ancien Testament, tout à la fin du premier des petits prophètes, en Osée 14, nous avons là le fidèle qui peut dire, Éphraïm dira, « Qu'ai-je plus à faire avec les idoles ?» Moi, je lui répondrai, je le regarderai, c'est l'Éternel qui parle. Ensuite, le fidèle dit, moi, je suis comme un cyprès vert. C'est-à-dire, je suis un arbre qui produit du fruit et qui en produit toujours. Comme le cyprès est toujours vert. Je suis comme un cyprès vert. Nous ne voulons pas dire qu'il y a dans cette observation, une pensée de satisfaction personnelle, d'orgueil, pas du tout. Le fidèle est là, produisant du fruit pour Dieu. Je suis comme un cyprès vert. Je dois la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'amène à produire ainsi un tel fruit. Mais, tout aussitôt, Dieu lui-même dira, de moi provient ton fruit. C'est le verset 8 du chapitre 14 du livre d'Osée. De moi revient ton fruit. Nous ne devons jamais l'oublier, chers amis. Si nous accomplissons notre service, parce que nous avons tous reçu un service, frères et sœurs, jeunes, moins jeunes, nous avons tous reçu un service. Si ce service est fructueux, ce n'est pas à nous-mêmes que nous le devons. Nous avons besoin d'être gardés, de penser, de satisfaction personnelle à cet égard. Ne jamais oublier que s'il nous est donné d'accomplir quelques services, que ce soit dans le cadre de l'Assemblée, que ce soit en dehors de l'Assemblée, dans le cadre de la famille, là où le Seigneur nous envoie professionnellement parlant, s'il y a du fruit produit, nous le devons au Seigneur et au Seigneur seul. À nous tous, en ce moment, il vient nous dire, tu es heureux d'accomplir tel ou tel service pour moi. N'oublie jamais ceci, de moi provient ton fruit. Voilà la pensée de la source, de l'origine du fruit produit. Philippiens 1, Jean 15, Osée 14, pour ne citer que quelques passages. Et puis alors, le but de ce fruit. Pourquoi est-ce que nous accomplissons quelques services fructueux? Pourquoi? Eh bien, pour qui? Pas tant pourquoi, mais pour qui? C'est-à-dire pour quelle personne? Pour le Seigneur. Nous accomplissons un service pour le Seigneur. Notre frère vient de citer le Cantique des Cantiques en rapport avec le peuple d'Israël, bien sûr, mais il y a des enseignements combien pratiques dans ce livre remarquable du Cantique des Cantiques. Quel est le dernier verset du chapitre 7 du Cantique des Cantiques? Que peut dire la Sulamite? À nos portes, il y a des fruits anciens et nouveaux. La porte, le lieu où l'appréciation, le jugement, le discernement se réalisent, la porte, le lieu où le Seigneur donne son approbation, ou peut-être sa désapprobation, à nos portes, il y a des fruits. Anciens, ils ont été produits autrefois par la grâce de Dieu. Il y en a des nouveaux,
Ces fruits se produisent actuellement, toujours par la grâce de Dieu. Alors, dans quel but produisons-nous, avons-nous produit ou produisons-nous de tels fruits? Dans quel but? Ah, elle est belle la parole de la Sulamite. Que dit la Sulamite? Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi, pas pour moi, pas pour ma propre satisfaction. À nos portes, il y a des fruits anciens, il y a des fruits nouveaux. Deux points, mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. C'est pour le Seigneur, chers amis, que nous servons, que nous accomplissons le service confié pour lui et pour personne d'autre. Que le Seigneur nous donne de nous en souvenir. Enfin, une dernière pensée en rapport avec ce fruit produit. Que dit l'Épître aux Romains au chapitre 7e? Le Seigneur est ressuscité pourquoi? Nous citerons tous la fin de Romains 4. Ressuscité pour notre justification. Mais que dit Romains 7? Il y a une pensée de plus en Romains 7. Nous sommes à celui qui a été ressuscité d'entre les morts afin que nous portions du fruit pour Dieu. Y avons-nous pensé à cela? Y avons-nous pensé dans ce passage de Romains 7, dernier passage que nous citons, avons-nous pensé à cela? Que nous sommes au Seigneur, comme il est dit ici, à celui, Romains 7, verset 4, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Il est même étonnant ce passage. Romains 4, nous le saisissons tous par la foi. Le Seigneur est ressuscité pour notre justification. Mais voilà Romains 7 qui nous dit autre chose et quelque chose de plus, s'adressant ainsi à notre responsabilité. N'oublie pas le serbe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. Tu appartiens au Seigneur, tu appartiens à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Afin que tu portes du fruit pour Dieu. Eh bien, que le Seigneur nous donne nous en souvenir. Tous, chers frères et sœurs, que tous nous nous souvenions que si nous appartenons au Seigneur, et quelle appartenance, chers amis, est pour l'éternité, si nous appartenons au Seigneur, c'est pour que nous portions du fruit pour Dieu. N'est-ce pas là une manière remarquable, réjouissante, encourageante, de réaliser la reconnaissance que nous devons à celui qui est ressuscité d'entre les morts, que nous portions du fruit pour Dieu.
Agis dans le cœur. On l'a vu dans cette parabole. Et nous avons noté dans Matthieu 13, ce qui était souligné, c'était le fait de comprendre du cœur. Celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend la parole. On peut noter que pour les autres terrains, il est dit qu'ils ont entendu, il n'est pas dit qu'ils comprennent. Il y a quelque chose qui a été entendu, mais ça n'a pas pénétré. J'aimerais qu'on voit un peu comment les choses nous sont présentées dans l'évangile. Selon Marc, au chapitre 4, il y a un autre point qui nous est présenté et qui nous intéresse aussi peut-être pour produire du fruit. Au verset 20, ceux qui sont semés sur la bonne terre sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la reçoivent et portent du fruit l'un 30, l'un 60 et l'un 100. Puis encore dans Luc, au chapitre 8, au verset 15, mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu, la retiennent dans un cœur honnête et bon et portent du fruit avec patience. Alors d'un côté, la comprennent du cœur et par la foi. Le deuxième, qu'ils la reçoivent. Quand il s'agit de recevoir quelque chose, voilà une. On lit un passage, il y a peut-être des exhortations, et si je reçois ce passage, ça veut dire, cette parole de Dieu, ça veut dire que je me soumets à cette parole. Ils la reçoivent, ils se soumettent à la parole. Et c'est aussi un secret pour nous. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pour que nous nous soumettions à la parole. Et alors, il y a du fruit produit. Dans l'évangile selon Luc, ils la retiennent. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont appris les versets par cœur et qu'ils la retiennent bien par cœur et qu'ils peuvent les réciter ensuite? Je ne crois pas que ça veut dire cela. La retenir, quand je retiens quelque chose, j'empêche que ça s'en aille, que ça m'échappe, que je le perde. Donc, c'est pour le garder. Il s'agit de garder la parole. Et quand il s'agit de garder la parole, nous en avons, le Seigneur nous en parle dans l'évangile selon Jean, ça veut dire obéir. Le Seigneur nous donne sa parole pour que nous lui obéissions. Et puis, quand il y a cette obéissance, eh bien, il y a un fruit qui est porté avec patience. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose comme une impulsion d'aujourd'hui qui n'a pas de suite demain, mais un travail patient. On est frappé quand il est question du travail dans la parole de Dieu. Ici, nous avons l'exemple de la parabole du semeur. Il est question dans d'autres passages du laboureur, qu'il faut que le laboureur travaille premièrement et qu'il jouisse ensuite du fruit. Il est question donc souvent dans la parole de Dieu de quelque chose qui est semé et qui va prendre du temps pour pousser. Et ça, c'est aussi peut-être une leçon pour nous. Souvent, nous aimerions que les fruits ou le fruit soient visibles tout de suite. Et s'il suffit d'aller à la campagne, de planter n'importe quoi pour s'apercevoir que le jour où on sème, on n'a pas le fruit le jour même, il faut attendre que tout pousse. Il faut qu'il y ait cette patience, il faut qu'il y ait ce travail profond de Dieu dans le cœur pour produire ce fruit. Alors, il y a ce fait de savoir attendre. Et sur un plan alors tout à fait pratique aussi. Voilà, on a des enfants où on a l'occasion peut-être de présenter la parole à des voisins, à des frères et sœurs peut-être, je ne sais pas, soit pour l'évangile, soit pour l'édification. Et puis, on aimerait qu'il y ait tout de suite quelque chose. Et parfois, on voudrait peut-être même tirer un peu ses enfants, que ça aille plus vite, ou ceux à qui on parle. Je me souviens d'un frère qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur dans notre région, qui était un colporteur, s'appelait Monsieur Bertrand. Et on aimait beaucoup passer des soirées avec lui, il nous racontait un peu sa vie de tous les jours, son travail. Il a travaillé pendant très longtemps pour le Seigneur. Et quand on essaye un peu de s'imaginer dans son... qui c'est qu'on a connu comme quelqu'un qui était un homme de Dieu. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Monsieur Bertrand, qui s'est jusqu'à la fin de sa vie, qui a travaillé ainsi pour le Seigneur. Et il disait, vous savez, pour le fruit, n'oubliez jamais qu'il ne faut jamais secouer l'arbre. Attendre que le fruit soit mûr, ce qui est produit par Dieu. Ne pas vouloir aller plus vite que Dieu. Savoir attendre ce que Dieu fait. Parce que si moi je veux y mettre ma main, c'est sûr que ça sera mal fait. Mais si le Seigneur agit, si nous le laissons agir, aussi bien dans nos cœurs que dans les cœurs, les personnes avec lesquelles nous sommes en contact, alors le travail de Dieu sera bien fait. Nous sachions donc avoir cette patience.
Au terme de notre réunion, nous pourrons demain, Dieu voulant, commencer avec la première des 6 paraboles du royaume des cieux. Au verset 24, il leur proposa une autre parabole. Nous voyons, chers amis, par cette expression « une autre parabole », il y a quand même un lien entre la parabole du semeur et la parabole de l'ivraie. Le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. Nous aurons l'occasion de voir ce sujet la prochaine fois, ce qui n'exclut pas, évidemment, les pensées exprimées par un frère ou par l'autre concernant
Cet appel de notre Seigneur, vous donc, écoutez la parabole du semeur. Peut-être qu'un frère aura le désir d'exprimer encore une ou l'autre pensée sur une si importante parabole.